BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce Happy Boulot, le mag spécial semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap sont deux fois plus au chômage que les autres. Et comme sur BFM Business, on a horreur de la destruction de valeur, on a décidé de se pencher très sérieusement sur la question. On va prendre le sujet du handicap sous l'angle business avec une émission dédiée à l'inclusion. Comment prouver aux entreprises que le handicap est une richesse et pas un frein à la productivité? Et comment prouver aux personnes en situation de handicap que c'est possible de réussir comme n'importe qui? Ça sera nos deux obsessions. En première partie d'émission, on sera avec Corinne Derbeuf, directrice diversité et inclusion chez Schneider Electric, une entreprise qui emploie 6% de travailleurs handicapés. C'est obligatoire, c'est pas très courant d'arriver à ce niveau-là et c'est le cas de Schneider Electric. On passera ensuite de l'autre côté du marché de l'emploi, côté demandeur. Qu'est-ce qu'il faut changer dans les boîtes pour aider à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap? On sera avec Elie Siksik, directeur de Tell Me The Truth, et Benjamin Louis, il est community manager. Et puis en dernière partie d'émission, on parlera d'autisme avec Laurence Moscovitz. Elle est coach spécialisée dans l'autisme. Elle travaille notamment pour un programme d'alternant pour Microsoft. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Corinne Derbeuf, directrice diversité et inclusion chez Schneider Electric. Bonjour. Je le disais pendant le sommaire, 6%, c'est le pourcentage obligatoire de travailleurs en situation de handicap. C'est ce que doivent avoir les entreprises. En moyenne, on est plutôt à 3,9%. En France, les entreprises qui n'atteignent pas ce niveau doivent payer une contribution à la GFIP. C'est comme ça que ça marche en gros. Chez Schneider Electric, vous êtes légèrement au-dessus des 6%, 6,39%. Pourquoi vous y arrivez et pas les autres?
Alors, on y arrive parce que chez Schneider, on a un engagement qui est de donner une égale chance à chacun dans le cadre d'une politique globale de diversité et d'inclusion qui est l'un des trois piliers de notre marque employeur et c'est aussi une valeur partagée avec les salariés. Donc, c'est un engagement qui est le point de départ et c'est aussi une réalité de comportement. L'inclusion, c'est deux choses essentielles. Accepter d'une part la singularité de chacun et reconnaître la personne pour sa différence. Et le deuxième élément, c'est de construire finalement un sentiment d'appartenance qui est créer un climat de conscience, de confiance où chacun puisse finalement s'exprimer tel qu'il est. Et ça permet à cette collectivité d'interagir et de réellement faire de l'inclusion au sein de l'entreprise.
L'argument premier pour ne pas respecter le niveau des 6% chez les entreprises, c'est de dire nous n'avons pas les compétences, nous ne trouvons pas les personnes clés. Vous avez une grande partie d'ingénieurs. Comment vous avez pallié à ce problème chez Schneider Electric?
Alors, le champ du handicap est large, mais les métiers le sont également. Donc, effectivement, si on prend en proportion le nombre de proportions de personnes en situation de handicap parmi nos ingénieurs et cadres est plus faible puisqu'on retrouve moins effectivement de personnes ayant des compétences à ce niveau-là, mais on a des salariés dans toutes les catégories socio-professionnelles, également dans l'environnement des usines, mais aussi bien dans les métiers tertiaires.
Concrètement, ça veut dire que vous mettez des objectifs chiffrés, vous dites il faut qu'on recrute un nombre de personnes handicapées précises sur tel type de poste?
Alors, on a un engagement à recruter aussi bien parmi nos contrats à durée indéterminée que parmi nos alternants, parce qu'on a un engagement fort aussi auprès des jeunes qui constituent notre vivier aussi de compétences. Par contre, on ne met pas d'obligation sur les métiers. Ça va être l'opportunité à la fois des profils et des postes que l'on a à pourvoir, sachant que l'ensemble de nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
85% des handicaps ne se voient pas. Le handicap, c'est quelque chose d'intime. Comment on l'aborde dans l'entreprise? Vous poussez vos salariés à parler de leur handicap? Quand vous recrutez, vous avez une sensibilisation précise sur la question? Comment ça se passe?
Alors, la sensibilisation, effectivement, la première des choses, c'est de déconstruire nos stéréotypes parce que on en a tous de façon consciente ou inconsciente. Donc, la première chose, c'est dans le cadre de cette politique globale d'inclusion, c'est déjà de combattre, en fait, nos stéréotypes et de sensibiliser nos salariés à la fois via de la formation, via des campagnes de communication, mais c'est aussi d'engager nos managers qui, eux aussi, vont être sensibilisés sur ces dimensions-là et vont pouvoir aussi développer au sein de leurs équipes, en fait, une démarche d'inclusion et d'accepter effectivement des profils différents et d'être sensibilisés aussi sur finalement les signaux faibles et de pouvoir montrer qu'on peut en prendre en compte toutes les situations dans le monde du travail.
Donc, mais c'est vraiment, concrètement, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous faites des formations, vous expliquez si vous êtes face à quelqu'un qui est peut-être malvoyant, voici ce qu'il faut faire, face à quelqu'un qui est sourd, voici comment communiquer, c'est quoi?
Alors, déjà, c'est effectivement de permettre aux salariés qui sont dans cette situation-là d'être équipés pour pouvoir travailler. Et en général, le collectif de travail est totalement associé également au handicap de la personne et à la façon dont on se comporte dans ce cadre-là. Donc, c'est à la fois une sensibilisation sur quels sont les différents types de handicap, qu'ils soient visibles ou non visibles, et c'est aussi une sensibilisation sur comment je travaille dans un collectif de travail avec des personnes en situation de handicap.
Et vous avez été confronté parfois à des peurs, à des difficultés. Comment ça se passe?
Bien sûr,
les peurs. De la part des salariés, sont... pas parfois parce qu'il suffit de parler, quoi. Il faut poser le sujet, quoi.
C'est ça. Il faut poser le sujet. Il faut en parler régulièrement. Déjà, on déconstruit beaucoup de craintes en parlant régulièrement, et on a des campagnes régulières pour ça. Mais c'est parfois aussi, et on engage souvent les collaborateurs eux-mêmes qui sont en situation de handicap à en parler avec leurs collègues et leurs collectifs, ce qui bien souvent déconstruit beaucoup de craintes aussi du collectif de travail. Donc, soit on en parle régulièrement d'une manière assez générale, soit on en parle en situation avec des personnes concernées et leur collectif de travail.
Concrètement, vous dites aux personnes qui sont en situation de handicap, expliquez vos besoins dans votre cadre de travail, vos besoins pour communiquer. Soyez clair sur
les besoins. Les besoins, ils sont exprimés, bien évidemment, et on les prend en compte avec des équipes de santé au travail. Mais c'est surtout expliquer ce qu'est le handicap et comment ce handicap se manifeste ou se concrétise pour la personne. Parce que bien souvent, il peut y avoir des incompréhensions liées au fait qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas le handicap et on ne comprend pas sa manifestation. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le cadre des handicaps invisibles.
Vous avez des exemples concrets à nous donner d'inclusion chez vous de travailleurs en situation de handicap?
Alors, tout à fait. Alors, on peut partir de handicaps, on va dire, assez lourds, qui peuvent être des handicaps de cécité, par exemple, ou de surdité. On a au sein de Schneider un collectif de handicaps de personnes sourdes qui sont totalement équipées avec du matériel spécifique qui leur permet, lorsqu'ils ont besoin, d'interagir et même de contribuer dans les usines à ce qu'on appelle chez nous des animations à intervalles courts, de pouvoir participer à la réunion sur la ligne de production avec une tablette, et ils ont accès directement à une personne qui leur traduit les échanges en langage des signes, par exemple. C'est un exemple pour montrer comment on va effectivement prendre en compte le handicap et faire en sorte que la personne puisse participer de la même manière qu'une autre.
Jusqu'où va Schneider Electric dans l'aide sur le poste de travail? Vous financez l'ensemble de ce dont le salarié a besoin? Il y a une aide extérieure? Comment ça fonctionne?
Alors, l'aide, elle peut être de différentes manières. S'il s'agit d'un aménagement de poste, oui, bien sûr, on va prendre en charge l'aménagement du poste. Mais ça peut être aussi un accompagnement dans le cadre d'un transport pour venir au travail. Ça peut être prendre en compte aussi un besoin collectif, par exemple, sur une ligne de production. Régulièrement, on a mis et on contribue au financement d'aménagement de lignes de production qui nous permet de garder en situation de travail des collaborateurs.
Vous êtes donc avec 6,39%, la moitié en emploi direct, la moitié en emploi indirect sur le taux de travailleurs handicap. C'est quoi l'objectif? C'est rester à ce niveau-là, ne pas baisser, c'est monter?
Alors, c'est de toujours se développer. Après, on a une réforme de la loi qui modifie un petit peu le cadre aujourd'hui. Mm-hmm. Mais c'est de continuer à bien sûr, développer à la fois notre pourcentage de personnes en situation de handicap en emploi en interne, mais aussi en externe. On travaille beaucoup avec le secteur du travail protégé et adapté, notamment par des actions en termes de l'emploi dans un certain nombre d'organismes en sous-traitance avec des entreprises adaptées ou des ESAT. Et ça, ça fait vraiment partie aussi de notre politique d'achat responsable qui contribue à notre taux d'emploi.
Merci beaucoup Corinne Derbeuf, directrice diversité et inclusion chez Schneider Electric. On va continuer de parler de handicap dans Happy Boulot le Mag, puisque l'émission entière est dédiée à cette question. On va parler de outing. Est-ce qu'il faut toujours parler de son handicap? C'est notre sujet dans Better Together.
BFM Business, Happy Boulot le Mag, Better Together.
Et on va continuer de parler de handicap au travail et d'inclusion avec nos deux invités. On est avec Élie Siksik, cofondateur de Tell Me The Truth. Bonjour.
Bonjour.
Agence de communication spécialisée dans la diversité, dans l'inclusion. Et on est avec Benjamin Louis, community manager, fondateur de Cœur Handisport. Bonjour.
Bonjour.
Benjamin Louis, vous êtes malvoyant et vous êtes également passionné de sport. Vous faites toute la journée, vous mettez en lumière les initiatives, les gens qui se dépassent. Vous êtes aussi au cœur du programme qu'on a lancé sur BFM Business, Rôle Modèle, qui met en valeur des personnalités qui travaillent, enfin des gens, pas des personnalités, des gens tout simplement qui travaillent. Notre sujet aujourd'hui, c'est comment améliorer l'inclusion dans le monde du travail. 15% des travailleurs pourraient être déclarés en situation de handicap, mais ne le font pas. Est-ce qu'ils ont raison, Élie Siksik, de le faire?
Est-ce qu'ils auraient raison de se déclarer?
Oui, est-ce qu'ils devraient se déclarer ou ils ont raison, finalement, de se cacher pour être plus tranquille, ne pas faire partie de cette catégorie handicapés, travailleurs handicapés, qui peut faire peur?
Alors, c'est justement pas une catégorie. Donc, ils ont absolument tort de ne pas le faire. Il n'y a pas d'étiquette mise sur un travailleur en situation de handicap. D'abord, c'est une démarche qui est confidentielle. C'est important de le rappeler à toutes celles et ceux qui nous voient et qui nous écoutent. Faire une démarche qu'on appelle de déclaration, une RQTH, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, c'est une démarche qui est confidentielle. Donc, on peut être travailleur handicapé sans que
tout le monde soit au courant.
Sans que son voisin de bureau le sache, sans que son manager le sache, ou que la personne qu'on manage, parce qu'on peut être aussi en situation de handicap et manager.
Mais ce n'est pas une déclaration officielle, chers amis, aujourd'hui je vais déclarer mon handicap. C'est auprès de la DRH.
Coming out.
Voilà, c'est auprès de la DRH et c'est confidentiel.
C'est auprès de la DRH ou des missions handicap ou des organes qui peuvent exister comme ceci dans les entreprises.
Ouais. Benjamin, vous, quand vous avez candidaté, envoyé des CV, est-ce que vous avez officiellement écrit que vous étiez malvoyant ou vous préfériez ne pas le dire?
Non, je l'ai dit parce que je me suis rendu compte que ça pourrait être compliqué à long terme. Donc j'ai préféré officiellement le faire.
Et vous pensez que ça a été un atout, un handicap dans le handicap?
Oui, ça a pu être un atout parce que c'était noté et que je l'avais clairement à l'esprit et que justement moi je suis allé sur un forum de l'emploi dédié en fait à ça. Donc du coup forcément c'était une porte d'entrée parce que quand on le déclare, ça veut dire que on peut avoir accès à des forums spécifiques et donc du coup les personnes qu'on a en face de nous, c'est pas un sujet parce qu'elles savent d'entrée qu'on est en situation de handicap. Donc après c'est basé juste sur les compétences et ce qu'on a envie de faire et l'expérience.
Élie Siksik, le déclarer, s'exprimer sur son handicap, c'est permettre aussi aux autres de, on le disait, on n'a pas besoin de faire une déclaration totale, mais c'est permettre aux autres de communiquer mieux avec vous.
C'est en fait créer un environnement de travail où on va se sentir à l'aise et qui va être confortable pour tout le monde. On peut prendre plein d'exemples, mais si je suis malentendant et que vous ne le savez pas, vous allez me parler, je ne vais pas vous répondre, vous allez me trouver antipathique. Donc vous n'allez pas être contente de travailler avec moi et moi, je ne vais pas être très à l'aise de ne pas pouvoir communiquer avec vous. Donc c'est une question de bon sens et d'adaptation relativement pragmatique. Pour que,
et de communication simple, parce qu'en fait là c'est juste de la discussion quoi.
C'est de la communication simple, c'est très simple dans plein de milieux, le milieu familial, le milieu amical, et paradoxalement dès qu'on passe la porte de l'entreprise, souvent on sent qu'il y a un peu plus d'hésitation à aborder ces sujets, qui sont des sujets alors certes intimes, mais tout à fait humains.
Oui, mais parce que de manière générale, dans le monde du travail, la moindre faiblesse, on se dit, ça va me porter préjudice. On se dit pas, tiens, ça va en faire une chance et ça va être super.
Quand vous utilisez le mot faiblesse, oui. Quand vous utilisez le mot différence, ça résonne de manière différente. Et une entreprise aujourd'hui qui a des profils différents et qui représente la diversité de ses consommateurs, de ses clients et de la société en général, c'est une entreprise qui est assez au diapason de ses marchés.
Vous avez l'impression, Benjamin, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au sein des entreprises pour leur faire comprendre que la diversité peut être une richesse, mais vraiment sur le plan business, effectivement. Consommateurs, acteurs, répondre à des besoins précis dans l'entreprise.
Oui, parce qu'en fait, les personnes ont besoin de s'identifier. Pour s'identifier, effectivement, il faut une richesse dans les équipes et faut le transmettre du coup à l'extérieur. Parce qu'en interne, c'est bien, il faut le transmettre en extérieur. Donc, c'est par exemple en faisant des publicités, en faisant en sorte que, je sais pas, les magasins soient accessibles et qu'en fait, finalement, ça soit une boucle vertueuse et que finalement, les clients, en fait, ça déclenche l'envie de se dire, je vais consommer chez eux. Parce que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, si la boucle vertueuse n'est pas faite, derrière, ça suit pas. Et finalement, les entreprises se coupent d'une part de marché, en fait, finalement. Tout simplement. Parce que nous, on est des consommateurs comme les autres, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, tout doit aller ensemble. C'est-à-dire en interne et la vision en externe.
Vous avez besoin de quoi, Benjamin, pour travailler de manière autonome ?
Moi, j'ai besoin de manière autonome d'avoir des logiciels. Donc, le logiciel pour voir, pour zoomer, pour être confortable et pour pouvoir avoir une aisance sur l'outil informatique. Et après, on peut avoir d'autres outils. En tout cas, en tant que déficient visuel, il existe des loupes agrandissantes, des téléagrandisseurs, par exemple, pour lire des documents. Il existe plein de technologies qui font que on puisse travailler, je dirais. En autonomie.
Pour un surcoût pour l'entreprise qui n'est pas colossal, on parle de logiciels, c'est pas énorme.
En fait, une fois qu'on a investi, quoi qu'il arrive, ça peut bénéficier à plusieurs personnes en fonction du matériel. Alors après, il y en a, c'est particulier, ça va être pour une personne uniquement. Mais c'est vrai qu'au final, le budget est peu conséquent par rapport à ce que ça peut amener en fait à l'interne. Parce que justement, un salarié qui a tout à disposition, justement, c'est là où il va être bien et qu'il va pouvoir travailler, je dirais, convenablement, où il n'y aura pas de questions à se poser. Et c'est là où ça fonctionne, je dirais.
Elie Siksik, vous faites de la pédagogie dans les entreprises régulièrement, vous faites des campagnes de communication. C'est quoi le plus gros, la plus grosse chose qui empêche l'inclusion? C'est la peur. C'est par exemple, Benjamin, on le connaîtrait pas, on dirait, moi, je ne vais pas lui envoyer un mail à Benjamin, il ne va pas pouvoir le lire.
C'est exactement ça, donc c'est l'exemple.
Et en fait, il le lit parfaitement bien.
Il le lit parfaitement.
Il l'entend, il n'y a aucun problème de communication.
Alors, on fait autrement. On s'adapte à la situation. Du moment qu'on a les adaptations, on peut faire comme les autres. C'est tout simplement ça, en fait.
Et après, je pense qu'il y a des petits réflexes à avoir au quotidien. Moi, si je travaille au quotidien avec Benjamin, très certainement que vous allez me dire, si vous m'envoyez une adresse à laquelle je dois me rendre, écrivez-la dans l'email plutôt que de m'envoyer un plan parce que les logiciels dont je suis équipé lisent moins bien les plans qu'une adresse. Mais encore une fois, c'est des choses toutes bêtes à intégrer au quotidien. Et donc, en fait, pour répondre à votre question, quel est le principal frein? Le principal frein, c'est l'ignorance. Et la principale solution, pour nous, c'est de communiquer. Et donc, de communiquer à travers des exemples comme celui de Benjamin, comme celui d'en fait de plein de collaborateurs dans l'entreprise qui ont des besoins spécifiques à des moments particuliers de leur carrière. N'oublions pas qu'un handicap peut être aussi temporaire. Et donc, communiquer. Alors, cette semaine est super parce qu'il met un coup de projecteur sur le sujet du handicap au travail, mais il y en a 51 autres où il y a la réalité ne change pas et où l'exemple et la preuve par l'exemple est tout aussi précieuse.
Ce qui veut dire qu'il faut pousser à la communication, il faut pousser d'une part les travailleurs en situation de handicap à parler de leur handicap autour d'eux, mais aussi les autres salariés à s'intéresser aux autres, à poser des questions. Parfois, on a peur en fait de déranger, mais d'aller dans l'intime. Ça peut, il faut quitte à faire des bourdes, il faut quand même discuter, Benjamin.
Ouais, il faut discuter, il faut briser la glace. En fait, il faut pas laisser des questions en suspens, parce que c'est là en fait où sur le moyen ou long terme, c'est pas bon, parce que voilà, les gens restent sur leurs questions et des fois sur des préjugés qui sont pas bons en fait. Alors qu'en discutant, en brisant la glace, bah du coup ça permet de dire bah non en fait tu imagines ça, mais en fait c'est comme ça que ça se passe. Et en fait voilà, ça permet aussi d'entrer en relation tout simplement en fait, en relation, communiquer. Et c'est vrai que c'est important. C'est important et je pense qu'en entreprise aujourd'hui, c'est pas assez fait.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Elie Siksik, cofondateur de Tell Me The Truth, et Benjamin Louis, community manager et cofondateur d'Handicœur Sport. On va continuer de parler de handicap à travers l'autisme. Est-ce que les autistes sont forcément uniquement des stars dans la tech? Quel est l'autre côté du miroir? C'est notre sujet tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business case.
Et on va parler d'autisme. On est avec Laurence Moscovitz. Bonjour.
Bonjour Laure.
Vous avez créé Talent Atypique. Vous êtes coach spécialisé dans l'accompagnement des autistes aspergés. On a l'impression parfois que l'autiste est devenu la star des boîtes de la tech, celui qui fait toutes les tâches que les autres ne veulent pas, celui qui amène des process. C'est presque devenu sexy. C'est quoi l'envers du décor?
Alors, en fait, il y a évidemment la nécessité d'accompagner ces personnes. Donc peut-être que, en effet, les rôles modèles que vous avez montrés, on parle de profils qui sont déjà bien accompagnés, bien identifiés, bien diagnostiqués. Mais c'est vrai qu'il y a évidemment tout en arrière-plan un processus de préparation de ces personnes-là. Déjà, il faut pour que ces personnes soient compétentes. Donc il faut qu'elles soient formées. Et d'ailleurs, dans cette optique, il y a des gros programmes de formation qui se lancent de plus en plus. Moi, j'ai la chance de travailler pour l'un d'entre eux, par exemple pour l'entreprise Compétences, qui est une entreprise adaptée et qui elle-même accompagne des personnes handicapées dans le numérique. Eh bien, j'accompagne la formation Microsoft Simplon, qui a créé le premier programme dédié aux autistes Asperger pour justement devenir développeur data. Et voilà, on peut constater qu'avec une formation intensive et des adaptations pédagogiques et un coaching, il y a véritablement un succès à la clé, puisqu'aujourd'hui
donc
on a...
Donc ils sont en alternance, ça fonctionne comment?
Alors voilà, ils viennent de commencer l'alternance, on a déjà trouvé l'alternance pour 6 d'entre eux. Il nous reste 3 alternances à trouver, donc d'ailleurs si des entreprises sont intéressées aujourd'hui, qu'elles n'hésitent pas, puisque c'est des profils qualifiés, des futurs data scientists et analystes. Et aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'est un succès, et surtout ce type de programme, qui est un programme pilote, a vocation de se développer de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit aujourd'hui au potentiel des personnes autistes et qu'on a envie de pouvoir révéler leur talent.
Parce qu'on a compris le besoin aussi et ce qu'ils pouvaient apporter dans l'entreprise. Voilà. Mais il a fallu quoi? Faire beaucoup de pédagogie, faire la preuve par l'exemple?
Alors déjà, on va dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se passent à l'étranger. Donc que ce soit aux États-Unis, en Israël ou même dans les pays d'Europe du Nord. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, tout ça est encore très nouveau. Il faut l'admettre. Il y a l'émergence des métiers du numérique, très clairement, qui offrent
une chance,
qui est une opportunité, parce que à la fois c'est des métiers qui recrutent, et à la fois il y a une palette de métiers qui est très importante, parce que ça va aussi bien du développeur d'applications, de sites, sur la cybersécurité, le big data, mais aussi les métiers plus créatifs comme les jeux vidéo, etc. Donc finalement, pour les personnes du spectre autistique, il y a finalement beaucoup de possibilités en lien avec leur profil.
Ce qui veut dire que l'évolution, le digital, a donné un marché, une possibilité, clairement, d'emploi. On recevait dans Rôle Modèle, le programme qu'on diffuse sur l'ensemble de nos réseaux, une jeune autiste qui nous disait: le télétravail, pour moi, aussi, c'est aussi une chance énorme. Je suis très bien chez moi et c'est une chance.
Alors c'est vrai, comme on le sait, pour certaines personnes autistes, on va dire que le lien à l'autre, l'interaction sociale, ça fait partie des difficultés. Pour autant, c'est quand même un besoin. Comme tout être humain a besoin d'être en lien à l'autre. On le ressent justement dans le télétravail aujourd'hui. Beaucoup de personnes, finalement, ressentent ce manque-là. Moi, j'ai le constaté dans cette formation où finalement, on l'a fait 100% en distanciel. Donc ça a très bien fonctionné, puisqu'évidemment, il n'y avait pas la fatigabilité des transports, de l'interaction.
Mais pour autant, ça ne n'oblige pas à se socialiser.
Mais pour autant, et justement, on a créé beaucoup de groupes collectifs, on a fait beaucoup de coaching collectif pour justement générer ce lien à l'autre et finalement simuler ces situations de collectif. Parce qu'aujourd'hui, même si la personne va travailler derrière un écran, elle a besoin de travailler en équipe, quel que soit le métier du numérique. Donc il faut aussi que la personne développe ses capacités relationnelles pour pouvoir faire ce métier-là.
On a avancer sur la question de la preuve, de l'intérêt d'embaucher des personnes en situation de handicap, mais qu'est-ce qu'il faut encore faire dans les entreprises pour avancer et augmenter, je fais que de le dire depuis le début de l'émission, on n'arrive pas à ces 6% obligatoires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour
avancer? C'est vrai que ça fait 33 ans que la loi existe.
Oui,
donc,
mais on n'y arrive pas, on préfère toujours payer.
On n'y arrive pas, on préfère payer. Alors, voilà, c'est comme on l'entend souvent, il y a cette fameuse peur de ne pas savoir. Donc, qu'est-ce qui déjà, à la base, peut permettre de lever ce frein-là? C'est la connaissance, évidemment, la formation, la sensibilisation. Mais pas que pendant une semaine, évidemment, pendant tout le, en filigrane, auprès aussi bien des missions handicap, mais surtout auprès des managers. Donc, c'est vrai que, finalement, le levier, ça va être d'expliquer aux managers l'opportunité que représentent ces talents. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir leur apporter? Parce qu'on le sait, ils ont des prédispositions. Alors, pas tous, et puis pas toutes, évidemment, pas toutes les prédispositions. Mais c'est vrai qu'il y a cette appétence pour les métiers de la tech, parce qu'il y a ce sens de l'observation, il y a ce sens du détail, il y a cette vision unique, cette pensée unique que peuvent avoir les personnes avec autisme. Et ça, c'est très riche pour l'entreprise. Donc, les managers, ils voient de plus en plus un intérêt. Et s'ils sont bien accompagnés, évidemment, on va dire que ça va permettre de créer un pont. Moi, c'est comme ça que je travaille. C'est finalement faire une passerelle entre le monde autiste et le monde de l'entreprise.
Merci beaucoup, Laurence Moscovici, d'avoir été avec nous dans Happy Boulot le Mag. On continuera de parler de cette question de l'inclusion du handicap au travail en dehors de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui finit dimanche. Mais c'est un sujet qui fonctionne toute l'année. À très bientôt sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.